DW. Économie et développement.
Bonjour à toutes et à tous. Nous explorons aujourd'hui les retombées d'un événement majeur pour la République centrafricaine. L'accueil pour la première fois de son histoire de la réunion annuelle du caucus africain, organisée sous l'égide du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un événement qui pourrait impulser au pays une nouvelle dynamique. Ce rassemblement comptait plus de 400 acteurs du secteur public et privé et a permis de poser les bases de plusieurs accords stratégiques. Comment ces partenariats peuvent-ils transformer durablement la réalité économique et sociale de la Centrafrique? On en parle dans la seconde partie de ce magazine. Le temps de faire un petit tour au Burundi. Depuis près de 3 ans, le Burundi traverse une crise de carburant sans précédent. Les stations-service sont pratiquement à sec. Les rares quantités disponibles ne suffisent pas à répondre à la demande. Résultat, le carburant entre illégalement depuis des pays voisins. La RDC ou encore la Tanzanie a des prix jusqu'à 4 fois supérieurs aux tarifs officiels, impactant fortement les coûts de transport. Le gouvernement tente d'encadrer les prix et de sanctionner les contrebandiers, mais la solution durable se fait toujours attendre. La récente grève des transporteurs a d'ailleurs provoqué une paralysie aux lourdes conséquences sociales et économiques. Les explications d'Antedi Testoni Ragira, notre correspondant à Bujumbura.
À la gare du nord de Bujumbura, une scène devenue familière. Des voyageurs font la queue, d'autres sont assis à même le sol. Il est déjà 14 heures, mais aucun bus ne se profile à l'horizon.
Depuis le matin, je fais des va-et-vient à la gare. Je ne sais plus quoi faire pour rentrer vraiment.
Il n'y en a pas de véhicule. Et quand on en trouve un, à cause du manque de carburant, les prix sont exorbitants. Mais s'ils augmentent le tarif, ils risquent des sanctions de la police.
Le transport en commun au Burundi est assuré par l'Office des transports publics et des opérateurs privés qui couvrent la majorité des besoins tant en zone urbaine qu'en province. Une moindre perturbation de l'approvisionnement en carburant désorganise immédiatement ce fragile équilibre. Depuis 3 ans, la situation s'est aggravée. Le prix à la pompe a doublé depuis 2020 sans que le carburant ne soit disponible en quantité suffisante.
Le carburant n'étant pas produit au niveau local et les prix étant fixés au niveau mondial, le Burundi subit des chocs exogènes sur le marché international. En conséquence, le gouvernement du Burundi a pris l'orientation de suivre au jour le jour les variations des cours mondiaux.
Malgré l'implication des autorités, de la société civile et des opérateurs économiques, aucune stratégie n'a jusqu'ici permis de résorber la pénurie de carburant. Pour Charles Nirameba, secrétaire général de l'Association des transporteurs du Burundi, le constat est alarmant.
Il y a un mois et plus que la société pétrolière du Burundi ne donne aucun litre de carburant et transporter sa provision au marché noir et à hauteur de 15 000 francs par litre de carburant. Alors vous comprendrez qu'il serait très difficile, voire même impossible, de respecter ce qui a été fixé par le gouvernement et les transporteurs ne peuvent rester sous peur de ces sanctions. Une amende de 1 million, l'emprisonnement d'un chauffeur et mettre sous la chaîne le véhicule. Les transporteurs, ce sont des investisseurs. Nous sommes les premiers à être affectés quand il s'agit de l'arrêt et du travail.
Les conséquences de cette crise s'étendent bien au-delà du secteur des transports. Les crédits bancaires ne sont plus remboursés, les impôts ne sont pas payés et les services s'effondrent.
J'ai manqué de moyens de transport à cause du manque de carburant. Un bus m'a exigé 60 000 francs au lieu de 5 500. Ça m'a traumatisé. Ce que je vendais ne vaut même pas ça.
Je payais 16 000 francs pour rentrer chez moi. Aujourd'hui, même à 30 ou à 40 000 francs, je ne trouvais pas de véhicule.
L'État tente de réprimer la contrebande, mais la crise persiste. Officiellement, le manque de devises freine les importations. Face à la paralysie, l'économiste Faustin Dikoumana a tiré la sonnette d'alarme.
Nous sommes dans une crise grave de pénurie de carburant, qui est évidente. C'est le déplacement qui nourrit même les activités économiques. C'est le transport qui fait que l'économie marche. Cela alors se produit sur le coût du carburant. Tout le monde constate qu'un litre de carburant à travers le commerce en contrebande arrive même à 30 000. Le gouvernement devrait alors substituer le transport organisé par le privé, par le transport public, disponibiliser les débits de l'État pour accéder au transport. Mais si le gouvernement ne peut pas faire son palliatif, ça veut dire que le privé continue à accéder ce qu'on appelle le service minimum. Il faut des vraies solutions aux vrais problèmes.
Mais ce service minimum, c'est souvent le marché noir. Les transporteurs trouvent du carburant en Tanzanie ou en République démocratique du Congo et fixent les prix comme bon leur semble. Plusieurs experts dénoncent une mauvaise gestion des devises et l'opacité dans la chaîne d'approvisionnement. 3 ans que la crise est dure. 3 ans d'attente, de débrouille, de surenchère. À quand une vraie solution? La question reste entière. Antedites Niragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Merci Antedites Niragira. Du Burundi, cap à présent sur la Centrafrique.
DW.
L'édition 2025 du caucus africain, qui s'est tenue à Bangui du 30 juillet au 2 août, commence déjà à produire des retombées concrètes. Parmi les plus significatives, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'engage à financer à hauteur de 2 milliards de francs CFA un vaste projet agro-industriel dans la préfecture de la Lobaye, au sud-ouest du pays. Cette initiative s'étendra sur un site de près de 1000 hectares à Pissa, à une centaine de kilomètres de la capitale. L'objectif affiché est ambitieux. Développer une capacité annuelle de production de 5400 tonnes de manioc, 4700 tonnes de maïs, 1700 tonnes de soja ou de haricots, ainsi que 1700 tonnes de moringa. Au-delà de la production agricole, le projet mise sur l'intégration industrielle. 4 unités de transformation seront installées sur place afin d'assurer la conservation, la valorisation locale des récoltes et la création de valeur ajoutée. Cette approche intégrée vise également à stimuler l'économie rurale, ouvrir de nouveaux débouchés aux producteurs locaux et favoriser la structuration de chaînes de valeur durables. En dehors de ce projet, la réunion du caucus africain a abouti à d'autres engagements concrets en faveur du développement centrafricain. Parmi les axes majeurs, la construction de logements sociaux, l'implication renforcée des PME centrafricaines et un appui ciblé du Fonds africain de garantie et de coopération économique, le FAGAS. Dans un pays où les fonctionnaires, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de la sécurité, manquent cruellement d'infrastructures et de conditions de vie décentes, la mise en place d'un programme pilote de logements sociaux est une avancée attendue. C'est ce qu'explique Marc Mandamba, ingénieur financier présent aux travaux du caucus.
Vous voyez, le thème du caucus cette année, c'est les infrastructures résilientes, le capital humain et la richesse verte. Donc le capital humain, les logements sociaux vont aider justement à ce déploiement. Aujourd'hui, dans la RPI, dans les provinces, on a un manque de structures sanitaires et d'éducation aussi parce que les fonctionnaires n'ont pas de bonnes conditions de vie. Et donc le but de ce projet, c'est de donner au personnel de la santé, de l'éducation et des forces de l'ordre, des logements sociaux décents dans l'arrière-pays, en particulier à Bangui également. Et donc c'est un projet pilote. On va tester une structure grâce à ce projet, l'affiner, la structure financière, contractuelle, les techniques de construction également. Et donc après la mise en œuvre de ce projet pilote, le but est de passer à l'échelle, donc en parlant non plus de centaines mais de milliers de logements.
Et l'autre message fort, c'est l'implication directe des entreprises nationales dans l'exécution des projets financés avec l'appui des partenaires internationaux. Fini le temps où les contrats échappent aux acteurs centrafricains, se félicite Marc Mandamba.
Je pense que l'ère est révolue où les contrats, que ce soit des banques de développement international ou locales, les contrats locaux, allaient bénéficier qu'à des entreprises étrangères. Donc c'est vraiment clé. Donc, d'ailleurs, on est en train de mettre en place un système qui va garantir une certaine part locale dans tous les contrats. Et donc effectivement, le but, c'est de tester pendant cette phase pilote plusieurs constructeurs et puis de les faire monter en capacité avec ces 300 logements pour que lorsqu'on passera à 3000 logements, ils aient déjà des techniques de construction et ils aient déjà augmenté en capacité.
C'est une stratégie de long terme. Utiliser les projets pilotes comme terrain d'apprentissage pour bâtir un véritable tissu de PME compétentes capable demain de rivaliser à échelle nationale et régionale. Mais pour que les PME se développent et prennent part à ces opportunités, encore faut-il qu'elles puissent se financer. Et c'est là qu'intervient l'un des chantiers cruciaux portés par l'institution financière spécialisée que représente le Fonds africain de garantie et de coopération économique.
Le FAGAS a deux pays dans lesquels il n'a pas d'activité, le Tchad et la RCA. Ce qui est assez singulier puisque le DG du FAGAS est tchadien et le PCA, moi-même, est centrafricain. Donc on va essayer de travailler à remédier à cela. On travaille justement à ce que le FAGAS vienne offrir une contre-garantie au nouveau Fonds national de garantie qui est en cours de capitalisation grâce à un financement Banque mondiale. Donc nous comptons répliquer ici ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire que le FAGAS apporte des garanties aux banques, couvre 50% des risques et ainsi les banques peuvent prendre le risque elles-mêmes d'aller soutenir des PME ou de baisser aussi, surtout, le coût du financement. Le coût du financement est vraiment un problème dans notre zone. Les prêts aux PME, lorsqu'ils existent, sont à des taux de 14, 15, 16, parfois 20%. Et donc, bien évidemment, se financer en prêt à ces taux-là relève du miracle.
L'accueil du caucus africain n'aura pas été une simple vitrine diplomatique pour la Centrafrique. Des jalons concrets ont été ainsi posés avec des impacts attendus à court et moyen terme sur le terrain au bénéfice des populations. Une dynamique à suivre de près dans les mois à venir. Et ce sera tout pour ce numéro d'économie et développement. Merci à Marc Madamba, ingénieur financier, président du conseil d'administration du FAGAS. Merci également à Jean-Fernand Quenan pour sa contribution à ce magazine que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur notre plateforme habituelle www.dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous.